À l'émission Sous l'Olivier, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre Généalogie spirituelle, animée par le regretté Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.
Il n'est pas facile de vous introduire dans ma famille spirituelle, de vous faire rencontrer mes ancêtres. Chaque personne, on le sait, est un vaste pays que l'on n'a jamais fini d'explorer. Je suis bien conscient d'avoir à peine effleuré la présentation de John Henry Newman, mais je me console en pensant que peut-être j'ai éveillé en vous la curiosité, le goût de le connaître davantage. Mon prochain invité vous est sans doute plus connu. C'est un homme qui a, lui aussi, beaucoup marqué ma vie. Il s'agit d'Ignace de Loyola. Sa vie est passionnante et singulièrement riche. Ses œuvres gardent encore aujourd'hui toute leur actualité. Qui n'a pas entendu parler des exercices spirituels? Qui n'a pas encore entendu parler des Jésuites, ce groupe apostolique dont il est le fondateur? Autant John Henry Newman se présente comme un penseur et comme un écrivain parlant abondamment de lui-même, on a dit que c'était un des penseurs les plus autobiographiques. Autant Ignace est discret sur lui-même. Il aura fallu l'insistance de son secrétaire, Gonzalves da Camara, pour lui arracher à la fin de sa vie le récit de son itinéraire spirituel. Et encore, ce récit sera rédigé à la troisième personne, comme si Ignace voulait se cacher derrière le pèlerin. Il s'appelle ainsi dans le récit, dans son autobiographie. Ignace n'est ni un philosophe, ni un écrivain. C'est essentiellement un homme d'action. En un sens, sa vie est moins séduisante que celle de John Henry Newman, que celle d'Augustin ou de Jean de la Croix. Ignace est né au Pays Basque, au nord de l'Espagne, en 1491, un an avant le fameux voyage de Christophe Colomb à la découverte de l'Amérique. Il mourra à Rome le 31 juillet 1556, à l'âge de 65 ans. Il a donc vécu en plein cœur de la Renaissance, époque de Michel-Ange, de Don Quichotte, de Rubens, du Gréco, époque d'êtres éclatés, ouverts sur des horizons nouveaux. C'est l'époque des explorateurs, des découvreurs. Ignace sera de leur nombre pour élargir les frontières de la vie spirituelle. L'événement central de la vie de saint Ignace fut sans doute sa conversion et sa consécration au service du Christ à l'âge de 30 ans, en 1521. En cette même année où Martin Luther quittait l'Église, la jeunesse d'Ignace fut pour le moins mouvementée. On le présente comme un chevalier fier, vaniteux, ambitieux. Ses premières années furent vraiment tumultueuses. Exploit, honneur, gloire, voilà, note André Ravier, ce qui l'enthousiasmait, l'enivrait, hantait ses rêves d'avenir. Quant à la femme, ignace et loin, en cette adolescence, de se satisfaire d'amour platonique, le sang des Loyola bouillonne en lui. Longtemps, les biographes ont camouflé cet aspect du tempérament de leur héros. Les familiers d'Ignace étaient plus francs. Il était adonné au jeu et aux affaires de femmes. Aimait se quereller et se battre, dit Polanco. Il était tenté et vaincu par le démon de la chair. On lui connaît certains excès nocturnes et des délits prémédités et nocturnes qui lui valurent d'être arrêté et emprisonné, et même d'être poursuivi par un rival qui voulait le tuer. Telle est la jeunesse, une certaine jeunesse d'Ignace. Que s'est-il passé en 1521 pour qu'Ignace se convertisse? C'est un accident qui va l'arrêter et le clouer sur un lit de convalescence. Défendant obstinément Pamplune contre les Français, alors que la cause était à l'évidence perdue, un boulet de canon lui fracasse la jambe et l'oblige, au château de Loyola, à un long temps de convalescence, pendant lequel il aura tout le loisir de réfléchir à sa vie. Faute de romans de chevalerie qu'il aimait beaucoup, sorte de harlequin du temps, de romans d'amour, on lui donne à lire des vies de saints et des vies de Jésus-Christ. Et c'est alors qu'il est piqué au vif et qu'il se met à jalouser Saint-Dominique et Saint-François, comme s'il se disait « Pourquoi eux et pourquoi pas moi, Seigneur? Que serait-ce si je faisais ce que faisait Saint-François ?» Et ce qu'a fait Saint-Dominique. Saint-Dominique a fait ceci, eh bien moi, il faut que je le fasse. Saint-François a fait cela, eh bien moi, il faut que je le fasse. Sa conversion est vraiment une conversion de jalousie. Quittant Loyola guéri, il est rarement raise. Sa convalescence à Loyola, on peut le penser, aura été comme une sorte de retraite fermée, obligatoire. Beaucoup de personnes se convertissent à l'occasion d'une maladie. Il a tellement aimé ce qui s'est passé à Loyola qu'il ira à Manresa, cette fois pour entreprendre une retraite fermée libre, et pour faire ce qu'il appelle, ce que j'appelle moi-même des olympiques spirituels, des performances spirituelles, des jeûnes, des pénitences, des prières, qui auraient pu être désastreuses pour lui et qui vont l'amener effectivement au bord du suicide. En désespoir de cause, il crie vers le Seigneur, « Secours-moi, Seigneur, même s'il est nécessaire de suivre un petit chien. Que veux-tu que je fasse ?» Ignace, enfin, est abandonné et le Seigneur peut le visiter et le rejoindre. Thank you. Ce qui s'est passé alors au bord du Cardonnerre, la petite rivière qui court à Manres en 1522, fut pour Ignace son buisson ardent ou son chemin de Damas. Il décrit lui-même cette expérience. Les yeux de son entendement commencèrent à s'ouvrir. Il eut l'intelligence et la connaissance de choses nombreuses, aussi bien spirituelles que relevant de la foi et de la culture profane, et cela avec une illumination si grande que toute chose lui paraissait nouvelle. On ne peut exposer clairement les notions particulières qu'il entendit alors, bien qu'elles eussent été nombreuses, sauf qu'il reçut une grande clarté dans l'entendement, de telle sorte que dans tout le cours de sa vie jusqu'à 62 ans passés, s'il récapitule en esprit toutes les aides qu'il a obtenues de Dieu et toutes les choses qu'il a sues, même s'il les réunit en un seul faisceau, il ne lui semble pas avoir acquis autant de connaissances que cette seule fois. Et cela fut de telle sorte qu'il resta l'entendement illuminé, au point qu'il eut le sentiment d'être comme un autre homme et d'avoir un autre intellect que celui qu'il avait auparavant. C'est de cette expérience mouvementée de Loyola et de Manres que sortiront les exercices spirituels et la communauté apostolique qu'il fondera en 1541. 20 ans plus tard. Désormais, pour Ignace, ce n'est plus « Pourquoi les autres et pourquoi pas moi, Seigneur ?» Mais après avoir reçu la visite comblante de Dieu à Manres, ce qu'Ignace a pu dire, c'est « Pourquoi moi, Seigneur, et pourquoi pas les autres ?» Dès qu'il quitte Manres, le plus cher de ses désirs, c'est de partager ce qu'il a reçu, c'est d'aider les autres. Il ne peut garder pour lui ce que le Seigneur lui a si gracieusement donné. Il se met donc à accompagner spirituellement les personnes qui croisent sa route. Si on me demande quel est le charisme de saint Ignace, je répondrai facilement, c'est un charisme de pédagogue. Tout au long de ce qu'il a vécu à Loyola et à Manres, Ignace a noté fidèlement, dans un cahier qui deviendra le livret des exercices spirituels, il pensait déjà à aider les autres à partir de sa propre expérience. Le livret des exercices, ce n'est pas un livre à lire, mais à faire. Un peu comme un livre de yoga. On peut lire un livre de yoga, mais essentiellement, il faut faire les exercices de yoga. Il s'agit d'un livre veillot, un texte qui est succinct et qui demande à bien être interprété. Les exercices spirituels de saint Ignace, c'est une sorte de programme de mise en forme spirituelle. On pourrait appeler ça aujourd'hui, c'est une sorte de jogging spirituel. Une démarche programmée très respectueuse des personnes. Idéalement, qui se déroule à l'intérieur d'un mois de silence et de solitude. 4 semaines ou 4 saisons variables. Ignace lui-même a vu que les étapes de ces exercices correspondaient aux triples voies classiques, la voie purgative, la voie illuminative, la voie unitive. La première étape des exercices consiste à se libérer, à libérer notre liberté, à dégager la personne de ses prisons, de ses toiles d'araignée, pour amener la personne à retrouver ses dynamismes inférieurs. La première semaine, la première étape des exercices aboutit à des attitudes de disponibilité inconditionnelle, des attitudes d'offrande. La deuxième étape vient répondre à la question qui se pose alors, « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?»« Je suis prêt, je suis disponible. Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» La deuxième étape des exercices est une étape de discernement, de fréquentation de la vie et des enseignements de Jésus, qui aboutit à ce qu'on appelle l'élection, c'est-à-dire à la découverte de ce que le Seigneur attend de moi, ce à quoi il m'appelle profondément, et que je m'engage à réaliser précisément dans l'étape suivante, la troisième et la quatrième semaine des exercices. Libérer la liberté, éclairer la liberté, pour enfin engager la liberté en entrant résolument dans le mystère pascal, en accueillant en soi le dynamisme du Christ ressuscité. Former des chrétiens majeurs, libres, lucides, engagés à la suite du Christ, tel est ce que poursuivent les exercices spirituels. Ce sera pour Ignace l'instrument par excellence de son travail apostolique, sa façon de partager ce qu'il a reçu, de partager aux autres. Plusieurs de ses compagnons d'études seront marqués par l'expérience des exercices spirituels. Ignace a rédigé ses exercices spirituels à partir de son expérience de rencontre avec le Seigneur, et non pas à partir des livres ou des études. En quittant Manres, en commençant à accompagner les personnes dans la vie spirituelle, alors qu'il n'avait aucun titre, sinon celui de son expérience, à faire ce travail, Ignace aura été arrêté, aura été mis en procès par l'Inquisition, qui était alors à l'affût des illuminés qui se trouvaient nombreux en Espagne. Ignace a compris qu'il devait étudier, et il s'est mis à l'école avec les jeunes alors qu'il dépassait la trentaine. Il a eu beaucoup de difficultés à s'appliquer aux études, tellement son désir de partager son expérience spirituelle était fort. Il ne manquait jamais l'occasion de faire entrer dans son dialogue ses compagnons d'études. Et c'est ainsi que plusieurs de ses compagnons seront marqués par l'expérience des exercices spirituels. Ils formeront que Ignace appelait le groupe d'amis dans le Seigneur. La compagnie de Jésus sortira de ce groupe. En 1539, les compagnons d'Ignace se réunissent dans ce qu'on a appelé la délibération des premiers pères. La question qui est posée, est-ce que nous continuons ensemble? Où est-ce que nous travaillons chacun de notre côté? Au terme de la délibération, on décide de travailler ensemble sous la conduite d'un supérieur. Ignace est nommé à ce poste avec la charge d'écrire des constitutions. Les constitutions d'un nouvel ordre religieux qui sera approuvé par le pape en 1541. C'est comme si, pour employer l'expression du père Ravier, Ignace donnait un corps à l'esprit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Compagnie de Jésus, telle que fondée par Ignace, inaugurera un nouveau style de vie religieuse dont on soupçonne guère tout l'aspect révolutionnaire. Un texte du père Stirli explicite très bien cette révolution causée par Ignace. Le style de vie de la compagnie met bien en lumière ce qu'il y a de radicalement nouveau et qui va susciter tant d'opposition. Jusqu'alors, la vie religieuse s'inspirait du monachisme et portait les signes distinctifs de ce monachisme. Le cloître, l'habit et surtout la prière du cœur comme centre et source de contemplation. Seuls les ordres de chevalerie faisaient exception. Le service apostolique découlait de la contemplation. Contemplata aliis tradere, apporter aux autres les fruits de sa contemplation. Rompant avec cette tradition millénaire d'une façon jugée révolutionnaire, par le XVIe siècle, Ignace renonce aux formes de la vie monastique pour privilégier la liberté du service apostolique. Son ordre n'aura pas d'habit monacal, pas de clôture, ni de pénitence particulière, telle que des carêmes spéciaux, etc. Le dominicain Melchior Cano a vu dans l'abandon de la prière du cœur rien de moins qu'une manifestation de l'Antéchrist. Deux papes issus des anciens ordres ont contraint la Compagnie de Jésus à reprendre cet usage jusqu'au jour où, finalement, Grégoire XIII garantira cette liberté totale pour l'avenir. Le projet d'Ignace ne procédait pas d'un manque d'estime pour la prière commune des moines. Lui-même en était touché jusqu'aux larmes, même dans les dernières années de sa vie romaine. Une seule chose le décide, la priorité qu'il reconnaît à la liberté pour le service apostolique, pour ne pas être handicapé dans les œuvres de charité auxquelles nous nous sommes donnés entièrement. Il justifie de la même manière le renoncement à la célébration solennelle de l'office divin, car nous avons fait l'expérience que ces pratiques ne sont pas un petit handicap pour nous qui, en vertu de notre vocation, outre d'autres obligations nécessaires, devons être occupés la plus grande partie du jour et même de la nuit à aider ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur. Mais Ignace ne se contente pas de supprimer, il construit du nouveau. Au centre de la vie de l'ordre, là où pour les moines se trouve la prière du cœur, il met sa pédagogie spirituelle pour chercher Dieu en toutes choses. Voilà le cœur des jésuites et sa prière essentielle. Les exercices spirituels l'y préparent. C'est là qu'il faut reconnaître la grâce de l'oraison spécifique de la Compagnie de Jésus, comme Nadal l'a expliqué un jour devant ses confrères, après les avoir renvoyés à la contemplation dans l'action. Ce que nous estimons être un privilège de notre père Ignace, nous sommes convaincus que cela a été concédé à toute la Compagnie. Nous avons confiance que cette grâce d'oraison et de contemplation est offerte à tous dans la compagnie, et nous reconnaissons qu'elle est liée à notre vocation. L'honnêteté historique exige cependant que l'on se pose la question de savoir si la Compagnie de Jésus n'a pas un peu perdu de vue le rôle essentiel du chercher Dieu en toute chose. Pour terminer cette présentation d'Ignace de Loyola, j'aimerais vous lire quelques passages d'un texte très original de Karl Rahner, qui a écrit un texte intitulé « Message de saint Ignace aux Jésuites d'aujourd'hui ». Karl Rahner fait parler Ignace. « Dieu lui-même, j'ai expérimenté Dieu lui-même, non pas des paroles humaines sur lui, mais lui et la liberté, tout originelle qui lui est propre. La grâce reçue à Manres, et dans la suite de ma vie, jusque dans la solitude de la mort, je n'en ai pas fait uniquement un privilège réservé à l'homme élu au sein d'une élite. C'est pourquoi j'ai donné les exercices, chaque fois qu'il me semblait indiqué d'offrir une telle aide spirituelle. J'ai donné les exercices avant même d'avoir étudié votre théologie. Et souriant-en, avant d'avoir obtenu, assez péniblement d'ailleurs, la maîtrise en théologie de Paris, je les ai donnés également avant d'avoir reçu le pouvoir sacramentel par l'ordination sacerdotale. Il reste ceci. Dieu peut et veut agir directement envers sa créature, et l'homme peut réellement expérimenter que l'événement s'est produit. Il peut saisir comment Dieu, dans sa souveraine liberté, dispose de sa vie d'homme. Cette conviction toute simple, mais en réalité monstrueuse, me paraît constituer le noyau de ce que vous avez coutume d'appeler la spiritualité ignatienne.
Vous venez d'entendre « Sous l'Olivier » avec Jean-Guy Saint-Arnon, jésuite, prédicateur et auteur.